Radio Okapi.
En direct de Kinshasa, voici les titres de ce journal de midi sur Radio Okapi. Commémoration de la journée du génocide en RDC, nous en parlons encore. La population du Sud Kivu réclame justice pour tous les massacres commis dans cette province au cours des 20 dernières années. Processus électoral en RDC, les États-Unis d'Amérique espèrent voir des élections crédibles, transparentes et inclusives. Dans ce journal, nous parlons également de la journée de la femme africaine célébrée le 31 juillet de chaque année. Quel bilan établir sur la promotion des droits des femmes en Afrique et en RDC? Léonie Kandolo, experte en genre, gouvernance et ressources naturelles, est notre invitée. Mesdames et messieurs, bonjour. La population du Sud Kivu réclame justice pour tous les massacres commis dans cette province au cours des 20 dernières années. Elle s'est exprimée hier jeudi 3 août lors du deuil collectif tenu au bureau de coordination de la société civile. C'était à l'occasion de la commémoration de la journée du génocide en RDC. Emmanuel Elamejua Kabidi.
Le deuil collectif en mémoire des victimes de guerre en RDC est une initiative de la Coalition congolaise pour la justice transitionnelle. Cette structure réclame réparation des victimes avec poursuite des auteurs. Cela pour l'éclatement de la vérité et la garantie de non-répétition. Maître Néné Bintou.
On est parvenu à obtenir la loi sur la réparation. Cette loi a été promulguée par les chefs de l'État l'année passée. Et cette loi prévoit la célébration du génocide. Toutes ces victimes n'ont jamais obtenu réparation. Notre cri d'aujourd'hui, c'est de voir l'application de cette loi par rapport à cette réparation-là.
Ce deuil revient sur des massacres de Kasika, massacre de Mutarule, de Kavumu, massacre de Makobola et bien d'autres encore. Était-il le temps pour ce genre de commémoration? Le professeur Philippe Kaganda, sociologue.
La consacration par le président de la République de la journée du 2 août de rappel de mémoire de nos martyrs est très significatif. C'est renouer avec l'histoire, une histoire douloureuse. La deuxième signification, c'est se projeter dans l'avenir. Et ce moment est particulier pour la province du Sud Kivu et pour la RDC en général.
Des mouvements de jeunes, des femmes et des journalistes ont pris part à ces deuils collectifs organisés à Bukavu. Emmanuel Elamejua Kabedi, Bukavu Radio Okapi.
Parlant toujours de cette journée commémorative du 2 août, à Beni, mercredi, des centaines de jeunes se sont rassemblés au rond-point Nyamwisi en fin de journée. Ils réclament tous le retour de la paix, mais aussi la justice pour les victimes et une mobilisation générale contre les agresseurs de la RDC. Marc Marofimbo était sur place. Voici son reportage.
Vêtus de noir, bougies allumées en main, ces jeunes se sont retrouvés au rond-point Nyamwisi pour rendre hommage aux victimes des massacres perpétrés dans la région de Beni. Françoise Mongia a vu sa mère se faire tuer par des EDF. Elle raconte sa douleur.
Nous sommes en train de réclamer la paix, que la paix revienne. Nous, étant que filles, on est en train de souffrir. Comme moi, personnellement, j'ai perdu ma propre mère avec le massacre. Il y a beaucoup d'orphelins qui sont en train de souffrir à cause de ce massacre. Et le gouvernement n'est pas en train de penser même à quelque chose pour tous ces enfants. Alors nous voulons la paix, que la paix revienne.
L'ennemi qui nous agresse n'est pas plus fort que nous. Il nous manque seulement la volonté d'agir de la part de nos autorités. C'est ce qu'affirme de son côté Clovis Mutsuva, qui met le gouvernement et la communauté internationale devant leurs responsabilités.
Il n'y a jamais une justice. D'abord, ce qui doit être fait pour l'instant, c'est mettre fin à ces tueries. Et ils savent, l'ennemi qui est à Brousse, il n'est pas fort que notre gouvernement. Il n'est pas fort que la communauté internationale. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas volonté. Si la communauté internationale décide de mettre fin à cette guerre, la guerre finira.
Beni, Marc Marofimbo, Radio Okapi.
Par ailleurs, plus de 12 000 déplacés regagnent depuis le début de cette année leur village d'origine dans la chefferie de Banyari Tchabi, à environ 120 km au sud de Bunia, dans les territoires d'Irumu, en Ituri. Selon des sources concordantes, ce retour progressif est dû à la calmie observée dans la région grâce aux opérations militaires conjointes FARDC et armée ougandaise contre les rebelles des ADF, mais aussi à la présence des casques bleus de la MONUSCO qui font des patrouilles pour la protection des civils. Cependant, la plupart de ces retournés n'ont pas d'abris qui ont été détruits ou incendiés par les groupes armés. Isaac Raymond.
Selon les constats faits par les leaders communautaires locaux, aucune attaque des hommes armés n'est enregistrée depuis le début de cette année dans cette entité coutumière, ce qui a encouragé les retours progressifs des déplacés en provenance de la chefferie voisine de Walindo-Bindi, des commandes à une centaine de kilomètres et des Bounia, chefs-lieux de la province. Ces retournés sont estimés à ces jours à plus de 12 000 personnes installées dans trois groupements, Boyo, Tondoli et Balei. Les autorités coutumières locales saluent les efforts des forces conjointes FARDC armées ougandaises ainsi que des casques bleus de la MONUSCO pour les rétablissements de la paix aussi des Dirumu. Elle demande au gouvernement de consolider cette paix relative car la présence des rebelles des ADF est toujours signalée dans la profondeur de la forêt, ce qui empêche ces retournés d'entreprendre les activités agricoles dans les zones reculées. Il demande également au gouvernement de construire des abris de fortune à certains retournés dont les maisons ont été incendiées par les ADF, mais aussi de réhabiliter l'hôpital de Tchabi et des infrastructures scolaires détruites pendant la guerre. D'autres déplacés de Tchabi qui se disent prêts à retourner dans leur milieu sollicitent l'appui logistique du gouvernement. Gouvernement provincial. Bounia, Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Les États-Unis d'Amérique espèrent voir des élections crédibles, transparentes et inclusives en RDC en décembre prochain. Cette question était au centre hier jeudi de l'entretien entre le président de la République et la secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques. Pendant plus d'une heure, Victoria Nuland et Félix-Antoine Tshisekedi ont aussi passé en revue la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RDC. On écoute Victoria Nuland au micro de Kelly Nkouté.
As you head towards a historic election in December.
Et comme nous allons organiser les élections historiques au mois de décembre.
We obviously talked about the importance both in the United States and in the Congo as democracies that we promote and ensure free and fair elections.
Nous avons effectivement échangé sur la nécessité, que ce soit pour nous au niveau des États-Unis, mais également pour la RDC, de pouvoir promouvoir des élections transparentes, équitables.
We want to see all the voices of the people of the Congo heard at the ballot box.
Et nous voulons que toutes les voix de la République démocratique du Congo se dirigent vers les urnes pour voter.
But at the moment, we have confidence that DRC can have a free and fair election if everyone participates.
Nous sommes confiants et nous pensons que les élections en RDC peuvent être libres et équitables si tout le monde participe à ces élections.
Notez que la secrétaire d'État adjointe par intérim et sous-secrétaire d'État aux affaires politiques, Victoria Nuland, va aussi rencontrer la CENI et les représentants des observateurs neutres pour, selon elle, garder un œil sur le travail consistant à organiser des élections libres et participatives. Et puis, présentation officielle hier ici à Kinshasa de la charte des médias d'information en ligne contre les discours de haine en période électorale. C'était au cours de la journée de plaidoyer et d'appropriation de la campagne de lutte contre les discours de haine initiée par le groupe de presse Nexcor à travers son média actualité.cd. Cette charte réunit un nombre d'engagements pris par les professionnels des médias afin de combattre ces fléaux dans la société congolaise. Donna Madimba nous en dit plus.
La charte des médias s'appuie sur l'article 5 du code de déontologie du journaliste congolais qui enjoint aux journalistes de bannir l'injure, la diffamation, la déformation des faits, le mensonge et l'incitation à la haine religieuse, ethnique, tribale, régionale ou raciale ainsi que l'apologie de toute valeur négative dans la pratique quotidienne de son métier. Le texte de cette charte comprend 6 engagements pris par les médias pour lutter contre les discours de haine en période électorale. Parmi ces engagements, il est prévu notamment de mettre en place des mécanismes pour encourager le signalement de tout propos haineux sur tous les environnements numériques et de ne pas offrir une tribune aux marchands de haine de tous bords, à savoir les influenceurs ou encore les acteurs sociopolitiques. Cette initiative de Nexcorp, la société éditrice de actualité.cd, a été élaborée grâce aux contributions de représentants des médias ainsi que des experts des organisations professionnelles des médias et d'ONG qui soutiennent le journalisme de qualité. Dans leurs interventions, le président de l'Union nationale de la presse du Congo UNPC, c'est lui de l'Association des médias en ligne de la RDC, le directeur pays d'Internews ainsi que la directrice de la division de la communication stratégique et de l'information publique de la MONUSCO encouragent les médias à s'approprier cette charte afin de promouvoir la paix, la cohésion sociale et l'unité.
Parlons à présent de cette déclaration du Conseil de l'apostolat des laïcs catholiques du Congo, Kalsisi, qui dénonce les violences pendant le processus électoral en cours qui, selon lui, est mal engagé. S'exprima sur Radio Kapi hier jeudi, ici à Kinshasa, Jean Bosco Lalo, président de cette organisation de la société civile, ajoute qu'il est temps que la justice, le droit, la vérité et le bonheur du peuple soient les idéaux qui guident la gouvernance sociale et politique. Jean Bosco Lalo le dit à Paul Matendo.
Le processus électoral très mal engagé. Nous, laïcs catholiques, venons dénoncer à l'opinion nationale et internationale les violences sous toutes ses formes, comme dit jamais connu dans les périodes antérieures aux processus électoraux. À moins de 5 mois des échéances électorales, le climat politique et social est plus que délétère. Le déni du respect des droits de l'homme et de la liberté d'expression avant jusqu'à dénigrer les hommes d'église à qui on refuserait de s'exprimer sur la souffrance de la population. Quand durait ça ping-pong après les dénonciations de la léthargie sociale et politique lors de la 60e assemblée plénière de la CENCO, qui a eu sa réponse en bout du mail de la part du chef de l'État. Il est donc temps que nous nous levions et que la justice, le droit, la vérité, le bonheur du peuple soient les idéaux qui guident la gouvernance sociale et politique. Dans un État qui se revendique de droit, la sécurisation de la population, au-delà d'être un droit à revendiquer, est plus qu'une valeur républicaine à exiger par tous les moyens légaux.
Revenons un instant à Ituri, où l'ancien gouverneur de cette province et notable du territoire de Mambasa lance un appel au gouvernement pour la réhabilitation urgente du pont Teturi, reliant le territoire de Beni au Nord Kivu à celui de Mambasa à Ituri. Au cours d'un point de presse tenu jeudi à Bunia, Jefferson Abdallah Penembaka accuse le gouvernement d'indifférence concernant la réhabilitation de cet ouvrage qui s'est effondré il y a 4 mois. Conséquence, on enregistre des pertes en vies humaines par noyade et la paralysie des activités économiques, ainsi que l'inaccessibilité à certaines entités par les FARDC pour sécuriser la population. Jefferson Abdallah Penembaka est au micro de Martial Kizabiamungo.
Comment comprendre qu'un pont aussi important comme celui-là puisse être abandonné pendant plus de 4 mois, sans même un début de l'opération de réhabilitation? Comme vous devez le savoir, c'est resté presque la seule voie de communication qui relie la province du Nord Kivu à celle de l'Ituri, d'Otuele et de la Tchopo. C'est un point important qui devrait aussi servir aux opérations. Les militaires interviennent lorsqu'il y a exigence de l'autre côté, dans la chefferie de Babila Babobi, mais malheureusement, rien n'a été fait. Et on donne l'impression comme si on est en train de tourner. Chaque fois qu'il y a cette traversée de manière avec ces pirogues de fortune qui ont été mises en place par des opérateurs économiques, il ne se passe pas une semaine sans qu'on déplore des cas de noyade. Et c'est pourquoi nous appelons à la responsabilité de nos gouvernants pour que rapidement ce pont soit réhabilité.
Contacté, le directeur provincial de l'Office des routes, Roger Dikongo, annonce que les travaux débuteront la semaine prochaine. Il affirme que les fonds sont déjà décaissés par la direction centrale des fonds d'entretien routier. 9e jeu de la francophonie en football. Les Léopards finissent à la 5e position après leur victoire sur les Diables Rouges du Congo, 1-0 hier jeudi au stade Tata Raphaël. Guy Bukasa, sélectionneur des Léopards U20, est content de la victoire, mais il aura voulu avoir plus de temps de préparation qui lui permettrait de jouer l'une des demi-finales. Il est au micro de Vanessa Nkongolo.
Je retiens ce qu'il y a de positif, ce qu'on a vu des garçons qui ont su résister quand c'était difficile. Il y a eu plusieurs temps faibles lors du match, mais on a su faire ce qu'on n'a pas pu faire contre le Bénin, c'est-à-dire courir, faire des courses défensives et se battre. J'ai retrouvé une équipe qui a su se battre avec les armes qu'elle avait. On avait misé sur une entame en feu parce qu'on savait que l'adversaire allait avoir un petit souci d'entame compte tenu du manque de fraîcheur. Et on l'a fait, on a réussi à marquer très vite et on a géré notre avance jusqu'à la fin du match. Donc bravo à mes garçons. Honnêtement, je n'ai pas très envie de revenir là-dessus, mais on regarde ce qu'on a vu aujourd'hui. Je pense qu'on aurait eu plus de temps. On serait sur terrain demain pour l'une des demi-finales. Mais écoutez, on prend ce que Dieu nous donne. On est content parce que c'est un match très difficile. Jouer contre le Congo, quelle que soit la catégorie, ça reste un match rempli d'effets de jeu. L'histoire sait nous le confirmer.
Actualité internationale.
Au Niger, une mission de la CEDEAO rentre bredouille de Niamey. Et pour cause, il est reparti de la capitale nigérienne quelques heures après son arrivée sans avoir rencontré ni le général Abdourahman Tiani ni le président renversé Mohamed Bazoum. La délégation conduite par l'ancien président du Nigeria, Abdul Salami Aboubakar, devait initialement présenter au nouvel homme fort du Niger les exigences de l'organisation régionale pour une sortie de crise dans le pays, issue qui passerait par le retour à l'ordre constitutionnel notamment. La junte au pouvoir au Niger est sous le coup d'un ultimatum de la CDAO qui expire dimanche. Mais les militaires nigériens annoncent qu'ils riposteront immédiatement en cas d'agression ou tentative d'agression contre leur pays par la CDAO. Plusieurs armées ouest-africaines, dont celle du Sénégal, se disent prêtes à intervenir si l'ultimatum n'est pas respecté dimanche.
L'invité.
Journée de la femme africaine, c'est le 31 juillet de chaque année. Cette célébration remonte au 31 juillet 1974, à l'occasion du premier congrès de l'Organisation panafricaine des femmes tenu à Dakar au Sénégal. Quel bilan établir sur la promotion des droits des femmes en Afrique et en RDC en particulier, 50 ans plus tard? Madame Léonie Kandolo, experte en genre, gouvernance et ressources naturelles, répond dans cet entretien avec Tati Mapoukou.
Madame Léonie Kandolo, bonjour.
Bonjour monsieur le journaliste et bonjour à tous les auditeurs.
Merci d'avoir répondu à l'invitation des Radio Capil. Un petit rappel historique sur ce qu'a été le combat de la femme dans le cadre des promotions des droits de la femme.
Bon, d'abord on peut dire que c'était quelque chose d'assez particulier parce que ça fait 51 ans aujourd'hui que cette réunion a eu lieu et les objectifs de la JIFA étaient la promotion pour une meilleure représentativité des femmes dans les instances de décision, la promotion du capital femme dans le développement inclusif, maintenant on peut parler des ODD, si on les met à l'heure actuelle, la prise de soins, la meilleure prise en compte des soins de santé, notamment la santé de la reproduction, et la lutte contre le fléau sur les violences, c'est-à-dire violences basées sur le genre, mariage précoce qui est encore un problème dans toute l'Afrique, et la lutte contre l'excision qui, chez nous, n'est pas forte, mais existe quand même.
En Afrique de l'Ouest notamment.
Oui, mais au nord de la RDC aussi, hein, souvent on ne le sait pas.
Ah d'accord. Dites-nous madame, maintenant, 51 ans plus tard, qu'est-ce qu'on peut dire? Est-ce qu'il y a eu des avancées, surtout ici chez nous en RDC?
Bon, je vais vous dire que chez nous en RDC, il y a eu beaucoup d'avancées, hein, notamment au côté législatif, hein, avec la loi sur la parité, avec la loi sur la protection du sida, avec la loi sur les violences basées sur le genre, avec des avancées dans le code du travail. Il y a vraiment eu la loi sur le VIH, on l'a vu aussi, oui. La loi de protection des enfants et même les conventions collectives dans les entreprises. Hein, oui. Donc, il y a vraiment eu beaucoup d'avancées.
Hein, souvent, et sur la trame politique
Sur la trame politique, il y a eu beaucoup d'avancées. Nous sommes un pays quand même où au niveau de la parité, par rapport à la loi de la parité, nous avons quand même près de 30% de femmes dans le gouvernement avec des postes régaliens. Et pour cela, nous devons bien sûr saluer l'action du président Félix-Antoine Tshisekedi, qui a d'ailleurs été plébiscité par ses pairs comme le champion de la masculinité positive. Mais malgré ça, quand même, nous devons quand même déplorer que dans beaucoup d'institutions, bon, il y a des femmes dans toutes les institutions, hein, on doit être d'accord.
Au Mais Parlement, elles sont sous-représentées. Elles sont c'est ça le grand problème.
Voilà, c'est ça notre problème, c'est sous-représentées ou pas représentées du tout.
Mais ne pensez-vous pas que cela est aussi lié à l'éducation de la femme, la scolarité?
Mais vous savez, avec, moi je dis toujours depuis plus de 40 ans, les femmes sortent des grandes universités, hein. Il y en a des milliers. Il n'y a pas des centaines, il y a des milliers de femmes qui sont sorties des universités. Donc si on voulait les nommer, il y en aurait assez. Si on voulait les choisir pour qu'elles soient nommées, il y en aurait assez. Il y en aurait assez. C'est vraiment une volonté politique. C'est une volonté qui vient aussi des dirigeants des partis politiques. Parce que c'est eux qui présentent les noms. Et la politisation, justement, des nominations est également un problème. Parce que si les chefs des partis, d'abord, ne se nomment pas eux-mêmes, ils nomment des hommes... Donc, quelque part, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Et je crois que maintenant, avec la vision actuelle du chef de l'État, qui est d'ailleurs le père de nombreuses filles, je crois qu'il comprend mieux cette vision-là et qu'il essaye de faire pour le mieux. Mais je crois qu'il devrait être encore plus strict par rapport aux nominations. Regardez le nombre de femmes que nous avons actuellement dans l'armée et dans les services de sécurité. C'est inédit.
Oui, même au gouvernement aussi, il y a une, je serais tenté de dire, une bonne représentativité.
Oui, absolument. Ouais. Et avec des postes ministre régalien.
Oui.
Donc tout ça, ça, c'est quelque chose qu'on voit qu'il y a un changement. Mmh. Il y a des changements, mais ils doivent être encore un peu plus forts.
Oui, mais une autre réalité, madame Léonie Candolo, est que aussi les femmes nombreuses, elles sont les femmes qui ne s'intéressent pas au fait aux questions politiques, aux questions sociales, elles se résignent à la cuisine.
Qui vous dit ça? D'abord, les femmes sont...
Ça, c'est le constat qui se dégage, au fait.
Non, non, c'est le constat que vous croyez. que vous croyez. Ce n'est pas le vrai constat. D'abord, en RDC, pour faire de la politique, il faut de l'argent. Les femmes, en général, ont moins d'argent que les hommes, ne fût-ce que parce qu'elles n'ont jamais été dans les institutions. Voilà. Mais si vous regardez, par exemple, au niveau des entreprises, dans les entreprises privées, vous avez beaucoup de femmes.
Mmh.
Donc, ça veut dire que ces femmes sont capables et compétentes. Mais c'est dans les partis politiques qu'il y avait un peu moins de femmes. Mais si vous voyez déjà qu'il y a plus de 5500 femmes candidates, ben ça veut dire que c'est déjà quelque chose.
Oui.
Hein, que ce sont des femmes qui ont décidé de se battre.
Dans les 5 années à venir, quelles sont les grandes branches sur lesquelles il faut s'appuyer pour vraiment aider la femme à avancer davantage concernant surtout l'égalité des genres ici en RDC?
C'est la volonté politique qui change tout. Vous voyez, quand vous avez la volonté politique, quand on a 30% de femmes au gouvernement, ça a été la volonté politique.
Oui.
Ça a mis longtemps, le chef de l'État a dû renvoyer les listes plusieurs fois, jusqu'à quand il a obtenu. Donc je pense que c'est la volonté politique. Quand il reçoit, quand il veut faire des nominations, il regarde, est-ce qu'il y a assez de femmes dans les nominations.
Merci beaucoup Madame Léonie Candolo d'avoir été avec nous, à la prochaine occasion.
C'est moi qui vous remercie et merci aux auditeurs de Radio Okapi.
Au revoir.
Au revoir et merci.
C'était là notre invité Madame Léonie Candolo qui répondait aux questions de Tati Mapuku. Ainsi s'achève ce radiojournal coordonné par Jacques-Yves Molima et supervisé par Pelekipe Lamondo. Alain Goy a assuré la mise en onde et grâce à Mzati Massanzi était à la présentation. Merci de nous avoir suivis.